Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir et bienvenue dans l'apérophonie de ce lundi 20 septembre. Je reçois ce soir Émilie de l'association qui représente ce soir l'association Résonance. Bonsoir Émilie.
Bonsoir.
Et on fait justement, on invite Résonance dans cette apérophonie. Vous allez, je l'espère, faire bien d'autres émissions Résonance. C'est ce qui est prévu pour Radio Campus. Et là, on avait prévu ce soir de parler d'un collectif dont vous êtes proche. Donc Move Your Gambette. On va attendre Chloé là qui ne saurait tarder. Et Jim aussi, je crois, c'est ça ?
C'est ça.
Donc on les attend, ils vont arriver. Et en attendant, est-ce que tu pourrais me dire quelques mots justement du collectif Résonance quand est-ce qu'il a été créé ? Ça fait quelques années, je crois. Et à quels objectifs il répond ?
Alors, effectivement, le collectif Résonance s'est créé en 2018 et il a une existence légale depuis 2019, en fait. Ça répondait à un appel qui était lancé par l'association ADRA et qui a demandé à tous les collectifs électroniques de se fédérer, en fait, de savoir si déjà ça les intéressait, de déjà se rencontrer, de discuter et de monter un collectif qui peut représenter en fait toutes ces associations. Parce qu'à la base, le constat, c'était quand même de dire que Grenoble, c'est une ville qui est quand même très riche musicalement, aussi une ville militante, associative, etc. Et c'est vrai qu'en termes de musique électronique, il y a quand même quelque chose où ça vit tous les week-ends, voire tous les jours, du mardi à Péromix au samedi soir au Dracart. Donc il y a une vie qui est quand même hyper riche ici. Et on s'est dit, en fait, ces collectifs, pour la plupart, sont bénévoles. Ils n'ont pas tous des salariés. Il y en a quelques-uns dans les associations du collectif, mais vraiment pas tous. Et en fait, on ne les voit pas. Ils organisent des soirées, ils ont des artistes, certains ont des labels, etc. Mais c'est vrai que dans les réunions institutionnelles où on allait, avec notamment l'Ampérage et du coup l'association ADRA, ils étaient inexistants. Et c'est vrai que là, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Il faut de base entendre aussi que la ville et que les autres institutions puissent entendre notre voix, cette voix en fait collective. Ça pourra aider à monter au front pour des questions, la crise sanitaire, sur les dates, les horaires tardifs qui ont été discutés aussi à une époque. Mais pas que. Et en fait, en se rencontrant, parce que c'était ça aussi, en fait, les collectifs, par exemple, de basse musique, ont pu rencontrer des collectifs de dub. Nous, dans la psytrance, on a pu rencontrer des collectifs techno. Et c'est aussi ça, le collectif Résonance, c'est déjà se rencontrer, discuter un peu de qu'est-ce qu'on fait dans nos associations et qu'est-ce qu'on défend. Et c'est vrai qu'on s'est mis autour de la table et du coup, on s'est dit, c'est les objectifs, c'est effectivement d'avoir une voix institutionnelle, une voix collective qu'on peut du coup faire entendre à la ville et aux autres institutions, mais aussi mutualiser des savoirs, des compétences, du matériel. C'est aussi accompagner les bénévoles et les associations dans la professionnalisation, donc via des formations, via des informations, de plein de choses d'actualité ou de subventions, ce genre de choses. Et
tu fais déjà une réponse très très complète.
Hein. Ah pardon.
on va quand même accueillir Chloé. Salut Chloé.
Salut. Bonjour bonjour.
Et donc justement, rebondir un peu là-dessus pour dire que justement, toutes ces réalisations et tous ces objectifs du collectif Résonance se sont aussi concrétisés avec Radio Campus esthétiquement pendant le week-end de la fête de la musique où on a bien vu la force de ce collectif et la richesse artistique grenobloise en fait, où pendant 66 heures, les artistes se sont succédés aux platines de la radio. Donc j'imagine que pour vous, ça a été, et pour nous aussi d'ailleurs, une grande satisfaction. Donc voilà, est-ce que tu...
Bah, c'est vrai que maintenant, dans Résonance, il y a un peu plus d'une vingtaine d'associations qui ont rejoint le collectif. Ouais. Donc on est nombreux et c'est chouette, nombreux à réaliser un peu des envies collectives et tout ça. Et hyper différent en termes artistiques, et c'est ça aussi qui fait notre force. Et du coup, les 66 heures, on s'est dit, on ne fait pas de fête de la musique parce que le Covid nous empêche de faire une fête de la musique comme on l'a fait d'habitude. Donc, on va la faire à la radio. Et donc, chaque membre du CA de Résonance a appelé les collectifs en disant, moi, j'ai un créneau de 12 heures à remplir. Il me faut un artiste par heure. T'as quels artistes de motivés à venir à la radio ou envoyer un set? Et ça s'est lancé 2 semaines avant le 21 juin. Et ça s'est réalisé. Et vraiment, on était hyper contents du résultat.
Dans l'urgence et dans l'enthousiasme.
Et tout le monde a répondu à l'appel.
Ça a super bien marché, ouais.
C'est ça.
Donc, Chloé, ravie de t'accueillir.
Merci. Moi aussi, je suis ravie d'être là avec vous ce soir.
Un grand plaisir. Et pour peut-être nous présenter une asso que je n'ai pas encore mentionnée, mais qui fait l'objet aussi de l'émission de ce soir, puisqu'on va parler... mix en non-mixité et initiation et prise de confiance par des DJ féminines aux platines. Quelle est l'origine en fait de la création de Move Your Gambette? Comment t'es venue l'idée et quel était l'objectif?
Alors l'association est assez récente d'un point de vue administratif, mais l'idée existe effectivement depuis 5 ans maintenant. À l'origine, c'est vraiment parti simplement du fait que j'ai appris à mixer à des copines et j'avais envie de les produire après sur scène. Donc, on a fait des soirées qui s'appelaient les Move Your Gambette. Et petit à petit, l'engouement était de plus en plus présent, surtout pendant le Covid où j'avais du temps libre. Et du coup, c'est allé un peu plus loin avec des formations et des ateliers en non-mixité.
Oui, on va parler de ça, c'est l'objet de Sister Act, c'est ça?
Exactement.
Et donc on va en parler pour bien détailler tout ce que ce projet apporte aux jeunes femmes que vous sélectionnez pour leur donner de la confiance et leur faire croire en leur talent finalement, parce qu'elles en ont et je pense que de nombreuses personnes le savaient, mais peut-être qu'elles n'en étaient pas suffisamment conscientes, et donc c'était un des objectifs. Et peut-être déjà pour lancer l'émission, écouter un premier morceau sélectionné par une des artistes donc qui ont fait partie du groupe Sister Act. Donc c'est Taka qui nous a sélectionné ça. C'est un morceau de Marcus Gibb qui s'appelle B-Side, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et du
est-ce que tu peux nous en dire un mot?
Alors oui, donc c'est Taka, donc Laura, qui l'a sélectionné. Donc ce morceau est sorti en 2015 sur l'EP Lobotomia et sous le label Disque Disco. Voilà, c'est une track qu'elle adore, qui est dans ses coups de cœur du moment.
Eh bien, on s'écoute ça, c'est parti.
Thank you. the way. My life is a B-side.
Et oui, de retour sur Radio Campus 90.8 dans l'apérophonie spéciale Résonance consacrée à Move Your Gambette ce soir, qui donc propose, on le disait, on en parlait, des ateliers mix et de la formation au mix en non-mixité pour justement donner confiance à des DJ et artistes féminines derrière les platines. Donc justement, là, on va reparler... du premier projet auquel a donné lieu Move Your Gambette, Sister Act 1, et alors que là vous êtes en train de lancer Émilie et toi Sister Act 2, donc on en parlera après. Mais pour revenir là-dessus, qu'est-ce qui a mené à la création de ce projet? Pourquoi on en est arrivé là et Comment ça s'est construit ?
Alors au début, c'était il y a un an et demi maintenant, et il y avait le Musée électronique festival qui nous proposait du coup de mettre en avant des femmes sur leur line-up et qui pensait peut-être un tremplin, une sorte de concours. Et en fait, au fil de discussion, on s'est rendu compte que on avait peur qu'il n'y ait pas de participantes. Et donc ça a vraiment soulevé un manque de candidates et de femmes derrière les platines. Et on est parti de ce constat-là. Et pour y remédier, c'est là où on a décidé de créer la formation.
Ouais, c'est vrai que en fait, on se disait, c'est mettre des nanas sur scène, c'est sûr que c'est, il en faut de plus en plus, etc. Mais c'est le bout en fait du chemin. Et avant ça, en fait, pour avoir plus de femmes sur scène, il faut aussi accompagner, il faut aussi que la pratique soit accessible. Et en fait, on s'est posé cette question-là de peut-être que le mix, la pratique du mix, il faut la rendre plus accessible et peut-être accompagner du coup les femmes pour qu'à la fin, la finalité, c'est qu'il y a plus de nanas sur scène que maintenant, quoi.
Bon, parce qu'on se doute que des passionnés de musique électronique... Elles savent que le mix existe, etc. Mais sans doute qu'elles se disent parfois que ce n'est pas pour elles et pour des raisons sur lesquelles on peut revenir. Et donc, il y a peut-être des barrières à faire tomber, non ? Qu'est-ce que vous avez eu comme discussion entre vous ? Il y a eu des choses un peu là-dessus ? Il y avait des freins, des craintes, des...
Alors, lors des entretiens, on avait posé des questions justement aux participantes pour savoir que si elles avaient participé ou non, si la formation était ouverte à tous, sans restriction. Et c'est vrai qu'on a eu plusieurs retours comme quoi elles n'auraient pas forcément participé parce qu'elles ne se seraient pas senties légitimes ou à leur place ou en sécurité. Donc, on a discuté avec elles et c'est vrai que le constat était présent et qu'il y avait besoin de cet espace-là. Et que sinon, elle ne serait sûrement pas venue s'inscrire, quoi.
Voilà, donc de l'encouragement, de la sérénité et de la confiance pour pouvoir pratiquer progressivement et s'améliorer, en fait, petit à petit, à son rythme. Et est-ce qu'il y avait parmi les... Déjà, combien il y a eu de candidatures au départ pour la première édition de Sister Act ?
Une petite vingtaine. Ouais. En fait, le seul critère quand on a lancé cet accompagnement, c'était d'habiter dans la métropole grenobloise. Ouais. Du coup, on est financé par la ville de Grenoble pour cet accompagnement. Mais c'est vrai qu'il faut le dire, accompagnement a lieu parce qu'on a aussi des financements. Et c'était la seule restriction. Ce n'était pas de savoir mixer, d'être techniquement... hyper avancé, c'était juste d'avoir des motivations, d'avoir une playlist de sons et d'habiter du coup dans le coin. Et c'est vrai qu'on a eu une vingtaine de candidatures qu'on a épluchées, donc un jury composé de Mouvir Gambette et de Gens de Résonance. Et donc après, on en a vu une dizaine, je crois, un peu plus.
12, pour être de mémoire.
Ouais, 12 en entretien. Où du coup, on les a questionnées sur leur motivation, pourquoi ce programme, où elles en étaient dans leur vie. Et c'est vrai que déjà avoir 20 femmes qui ont postulé à cet accompagnement, c'est déjà énorme en fait.
C'est-à-dire que vous attendiez pas forcément à un tel succès, une telle réponse pour une première proposition, donc c'était encourageant.
Ouais, c'était méga encourageant et c'est vrai que de les recevoir aussi en entretien, de lire leur candidature, on s'est dit mais en fait on met le doigt sur quelque chose qui est nécessaire.
Oui, un besoin.
Un besoin et qui n'est pas juste un besoin ponctuel parce qu'en fait des ateliers de mix, tu en as et tu en trouves pas en non-mixité, effectivement, enfin pas aussi régulièrement en non-mixité. Mais en fait, un accompagnement long où tu peux accompagner la personne, discuter justement des craintes, des freins et du coup proposer et un accompagnement technique et administratif, ça n'existe pas en fait. À Grenoble, en tout cas, ça n'existe pas.
Est-ce que vous les aidez pour celles qui souhaitent s'orienter vers ce genre de parcours, à réfléchir potentiellement à ce que ça implique une carrière de DJ
Exactement.
Programmer des dates, rencontrer des salles, se mettre en relation avec un réseau qui puisse leur permettre de vivre de leur passion, quoi. Ou en tout cas de mieux se faire connaître et d'avancer.
Oui, dans la formation, on est parti sur la base des cours donc de mix, mais pas que. Donc il y a du vinyle, de la pratique vinyle, de la pratique MAO, de la pratique sur du live et du contrôleur, donc vraiment toucher à différents types de matériel. à faire donc la MAO, c'est de la musique assistée par ordinateur, de la production, mais également du coup l'environnement, donc l'accompagnement, c'est ce qu'on disait effectivement, pour qu'elle se sente aussi une fois qu'elle aurait quitté la formation, qu'elle puisse être autonome et qu'elle soit pas perdue dans le milieu et qu'elle puisse avoir des références et des contacts et une mise en relation et puis même entre elles en fait de rencontrer d'autres filles qui ont la même passion, la même motivation et avec qui on peut créer des choses et s'entraider. Et je pense que c'est important dans ce milieu de pas être tout seul et d'être entouré par des personnes bienveillantes avec qui on peut échanger.
Oui, ça fait avancer en confiance. Et justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parlais de vinyle, de mix digital aussi, de live. Donc, il y a différents supports. Il y avait parmi les candidates, il y avait des productrices déjà ou...
Oui, on avait Mariba qui travaille chez Arturia, donc avait quand même des notions de MAO assez avancées. On en avait plusieurs qui étaient sur contrôleur, par exemple. Sarah qui était un peu sur vinyle aussi, donc voilà des profils assez différents, mais qu'avec des notions de base, on va dire, où enfin, voilà, c'est vraiment le but, c'est de l'approfondissement quoi.
Justement, c'est bien aussi ce côté diversité des parcours, parce que les filles qui étaient plus avancées pouvaient tout à fait donner des clés aux débutantes et partager leur expérience avec elles. Et toi, qui as aussi un parcours de DJ à côté, tu as certainement pu mettre en avant des difficultés que tu as rencontrées, des solutions que tu as trouvées, des choses, des outils concrets, quoi, des conseils concrets.
Bien sûr, ouais. Sur quel matériel acheter au début, par quoi commencer, un peu quels sont les prix, c'est souvent les questions qu'on me demande. Donc avec la formation, on essaye de rendre accessible du matériel pour qu'elle puisse venir s'entraîner régulièrement. Parce que du matériel de mix, même d'occasion, même des contrôleurs, ça reste quand même une somme qui n'est pas forcément possible pour tout le monde. Donc vraiment, avec la formation, en tout cas, on essaye de rendre ça accessible. Mais bon, après, c'est bien aussi, si jamais elles ont les possibilités de s'en acheter, de pouvoir les accompagner aussi sur quel format, quel modèle. Exactement, comme tu le disais, les problématiques que j'ai pu rencontrer en commençant à jouer et leur donner des conseils, tout simplement.
Et c'était à quelle fréquence les entraînements au mix ? C'était régulier ?
Lors de la formation ?
Oui.
Alors, pour l'instant, on a eu... en fait, on a un atelier tous les deux mois. Ça, Émilie ?
Ouais, tous les deux mois. Et en fait, comme disait Chloé, la pratique du mix en libre service, entre guillemets, c'est une fois par mois. Donc, en gros, elles ont des rendez-vous tous les mois pendant un peu moins d'un an qui sont soit des formations, soit de l'accès à du matériel pour qu'elles puissent s'entraîner. Parce que l'idée, c'est effectivement, elles ont aussi... des dates tout au long de l'accompagnement Sister Act. Et souvent, en fait, un set, ça se prépare. Et donc, qu'elle prenait le matériel pour s'entraîner, pour le préparer. Et donc, ça aussi, c'est du matériel de mix, c'est méga coûteux. Donc, c'est bien de pouvoir y accéder avant, quoi.
Et vous aviez, quand tu parles d'intervenants, c'était des DJ qui étaient déjà insérés dans la scène et qui partageaient... Des conseils techniques, des sélections, Non, c'était pas au niveau des morceaux, j'imagine, mais...
Non, c'était pas au niveau des morceaux.
C'était plus la technique de mix.
C'était effectivement l'approche qui nous intéressait, la personne aussi, si elle est dans le réseau grenoblois ou un autre réseau, c'était... Ouais. On a eu Isa, là, qui fait partie de quelle agence
de jeu de main.
Jeu de main de Lyon, voilà, qui est venue la semaine dernière donner un atelier sur le booking. Et c'est intéressant parce que c'est aussi des rencontres et ça peut leur mener à terme des dates, des évolutions, enfin des réseaux, quoi. Et c'est ça aussi l'accompagnement, c'est leur donner des clés et en même temps des contacts, quoi.
Oui, pour la suite, qu'elles connaissent des salles, des agents éventuellement pour lancer leur carrière si elles en ont envie.
Ouais.
Donc c'est très positif tout ça. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale. On va s'écouter un morceau sélectionné par Yagi Ouda, si tu veux nous en dire un mot, Émilie. Ça s'appelle Ivy Lab de Suzuki.
Tout à fait. Donc Yagi Ouda dit de ce morceau que Ivy Lab est un duo de producteurs londoniens qui produit un mélange de musique électronique et de rap hip-hop avec des sons toujours très travaillés. Suzuki est une track que j'aime beaucoup et qui s'intègre très très bien dans un set apparemment.
On s'écoute ça tout de suite sur Campus Grenoble 90.8.
bike runner is footwork in the middle of a hell's angel. The wireless bunch of outlines to come out of the west and cover the kids and adults.
Et donc, de retour sur le plateau de Radio Campus Grenoble 90.8, dans l'apérophonie avec Émilie et Chloé. On parle donc de Move Your Gambette et des événements et des projets Sister Act. Et là, on parle de la dernière édition, donc Sister Act 1. Et je voulais voir un peu... on peut parler donc des participantes que vous avez sélectionnées. Comment vous avez valorisé finalement leur progression, parce qu'il y a eu finalement tout ce que vous avez pu mener comme action avec elles, ça a vraiment porté ses fruits. Il y a eu une émulation, il y a eu tout un travail de fait et beaucoup de plaisir de prix aussi. Et je pense que le plaisir il se voit aussi sur scène quand vous les invitez, quand vous les faites jouer, quand vous les programmez avec des salles. Et comme résonance avec votre réseau, j'imagine que il y a des possibilités. Donc, comment ça s'est passé concrètement pour programmer vos jeunes prodiges là de Sister Act?
En fait, quand on a monté le projet d'accompagnement, l'idée, c'était pas de leur imposer d'aller sur scène.
C'était
s'il y avait des occasions qui se présentaient, leur proposer et voir si elles se sentaient prêtes et si elles avaient besoin d'accompagnement spécifique pour se sentir prêtes. Mais la scène devait arriver vraiment au stade un peu terminal du projet d'accompagnement.
Comme une envie, comme un...
Ouais. Comme une fin, un objectif final. Ouais. Mais pour le coup, c'est vrai que les filles de cette année ont été hyper proactives, hyper investies. Et en fait, je crois que la grande réussite aussi de Sister Act 1, c'est qu'elles ont vraiment une émulsion entre elles qui est assez dingue. Et elles ont créé elles-mêmes une sororité et un mode de fonctionnement entre elles qui est trop chouette. À chaque fois qu'il y en a une qui a des opportunités de date, elle les propose à d'autres. Elles font des B2B. Quand elles vont sur scène, qu'il y en a une qui a un souci, elles sont toutes derrière pour l'aider. Enfin, tout ça, c'est le résultat aussi de l'accompagnement. Et c'est à elles seules, en fait, qui ont amené ça, quoi. Donc, au final, les dates résultent de leur investissement et des réseaux, de leur réseau et de nos réseaux. Mmh. Mais c'est vrai que, pour le coup, ça s'est fait un peu tout du long, naturellement, quoi.
On a eu de la chance, oui, cette année, qu'il y ait vraiment une bonne entente et une osmose et que les profils soient aussi assez complémentaires. Nous, dans le cadre de la formation, comme tu disais, pas obligation de monter sur scène. On prévoyait du coup de commencer, en tout cas, par une radio. Par un passage sur une radio locale, ensuite d'avoir une date ou deux dans un bar, et pour finir du coup une date à l'Ampérage. Donc nous, c'était un petit peu la progression qu'on imaginait. On ne s'attendait pas effectivement qu'elle soit déjà bookée cet été avant même qu'elle monte à l'Ampérage ou qu'elle se produise sur scène à la Bobine. Donc ouais, elles ont commencé à jouer avant même leur première date devant des gens que nous, on leur proposait dans le cadre de la formation. Et donc c'est tant mieux parce qu'elles étaient prêtes, parce que on était aussi de là derrière pour les accompagner là-dessus, et puis il y avait du matos à disposition, donc elles pouvaient s'entraîner avant leur set. Mais c'est parti vraiment plus vite que ce qu'on imaginait.
Il y avait une grande motivation, un grand enthousiasme, et ça s'est vu, et d'ailleurs, à la Bobine, on les a programmées fin août.
C'est vrai que pour en avoir discuté avec les filles, déjà c'est une date qui a été assez... stressante pour elle de jouer à la Bobine, aux apéros mix, qui est quand même un rendez-vous régulier à Grenoble. Et je discutais avec Ciao Cesco, qui a joué un set plus techno en fait que ce qu'elle faisait, enfin à la fin en tout cas des apéros mix, que ce qu'elle faisait d'habitude. Et elle me disait c'est aussi l'influence des filles, mine de rien, qui a fait que j'en arrive à faire ces DJ sets là et de sortir un peu de sa zone de confort. Et effectivement, sans l'accompagnement et sans ces rencontres là, peut-être qu'elle y serait pas allée, ou peut-être avec plus de temps. Mais du coup, c'est chouette qu'elles se nourrissent aussi les unes les autres, parce qu'elles avaient, dans la sélection du groupe, en fait, c'était ça aussi. On avait envie d'avoir des horizons artistiques très différents, des parcours qui soient différents aussi, des âges différents, etc. Et c'est vrai qu'on a misé sur ce groupe-là qui résulte de ces cinq femmes-là, mais qui est hyper complémentaire, en fait. Et elles se nourrissent les unes les autres et elles s'entraident. Et ça, c'est hyper chouette.
Complètement, donc, objectif atteint.
Yes.
C'est super. Et donc là, la suite, Sister Act 2, ça se lance en ce moment.
Yes, Sister Act 2. Oui, alors du coup, on a eu les financements pour la deuxième année, donc on est très contents. Merci la ville de Grenoble. Et donc, on a lancé Sister Act 2 la semaine dernière. C'est jusqu'au 31 octobre pour postuler. Donc, on dira à la fin de l'émission les liens, tout ça. Il y a un petit formulaire à remplir. Et comme l'année dernière, les seules choses qu'on te demande, c'est un petit résumé de où t'en es, de tes motivations, pourquoi tu veux postuler à ce programme, d'une petite sélection de quelques tracks, d'une playlist YouTube, Spotify, Deezer, ce que tu veux, et du coup, d'habiter dans le coin de Grenoble. Voilà, c'est les seuls critères.
C'est très ouvert, et tu me disais que vous aviez déjà reçu pas mal de candidatures.
Une petite dizaine, ouais. Une petite dizaine, et pour en discuter autour de moi, j'ai pas mal de femmes qui sont en train de construire leur candidature et d'y réfléchir, donc c'est... déjà hyper chouette. Et on a même eu entre les deux sessions là, des femmes qui nous avaient relancé, qu'elles avaient postulé l'année dernière et qui voulaient postuler, enfin repostuler cette année parce qu'elles n'avaient pas été prises, qu'elles étaient prêtes. Et donc là, voilà.
Je sens que ça va être difficile de faire un choix.
Ouais.
Donc ça a déclenché des vocations là, ce projet, ça a super bien, tellement bien marché que...
Bah, je pense
que
ça fait juste réfléchir les femmes et elles se disent, bah, en fait le mix c'est pas réservé qu'aux hommes et qu'à une certaine... partie de la population, mais en fait c'est ouvert à tout le monde et donc pourquoi pas à moi. Et je pense que quand vraiment j'ai vu une évolution qui a été incroyable sur ces 5 dernières années, ou quand j'ai commencé et que j'en parlais à des copines qui étaient dans la musique, qui écoutaient beaucoup de sons, qui diguaient énormément, et le fait de passer derrière les platines, c'était inenvisageable, impensable. Même si je leur proposais des ateliers gratuits avec moi, ben c'est pas forcément elles avaient pas forcément envie, mais parce qu'il y avait aussi personne qui le faisait, donc c'était compliqué de se projeter et de se dire ben moi aussi. Et en fait, là, bah, avec un an déjà, quand on a fait la première Sister Act 1, on a eu quand même pas mal de candidatures. Mais là, je pense que du coup, vu qu'on a eu le résultat et que bah, du coup, ça va être le double, le triple, et c'est génial.
Ouais. Faut que ça continue comme ça. Et c'est super de voir tous ces talents qui émergent à Grenoble et cet enthousiasme qui se fait parmi les femmes et avec, en plus, derrière, un parcours qui peut se faire à la fois... au niveau local d'abord, et pourquoi pas ensuite avec les contacts plus largement, et ton parcours en témoigne aussi. Donc voilà, c'est vrai que ça peut leur donner des grands, enfin beaucoup d'espoir et beaucoup d'envie pour la suite, de voir comment t'as pu évoluer dans ton parcours personnel de DJ, quoi.
Oui, j'espère.
Et donc vraiment c'est un super projet. Là on peut parler un peu de justement comment le calendrier là, les inscriptions, c'est jusqu'à fin octobre, c'est ça?
C'est jusqu'au 31 octobre, ouais, ouais. Tout à fait. Donc c'est en ligne, il y a un événement qui s'appelle Sister Act 2, et si jamais il y a du coup des pages Facebook, donc le collectif Résonance, que vous pouvez retrouver sur Facebook, et donc on a posté l'événement et le formulaire. Et sinon, il y a un groupe qui s'appelle Move Your Gambette. Et pareil, il y a toutes les informations pour postuler.
On remettra tout ça aussi sur le texte qui accompagnera l'émission. Et je propose, est-ce que vous avez encore des choses à dire pour compléter, peut-être?
Je pense qu'on n'a pas assez parlé des freins.
Ouais.
Mais
j'avais posé une question dessus, mais je ne sais pas.
Moi, je trouve ça intéressant d'y revenir parce que c'est vrai que cet accompagnement-là, il met le doigt aussi dessus. Je trouve que on a beaucoup critiqué la non-mixité. Là, je trouve qu'on est en train de l'accepter petit à petit, et que les hommes sont en train d'accepter qu'il faut des espaces en non-mixité. Et c'est vrai qu'en fait, nous, on s'en sert comme un outil. La non-mixité, c'est pas le but, en fait. Enfin, c'est pas le but. Disons que c'est un outil pour arriver à un objectif final qui est d'avoir plus de femmes sur scène. Mais c'est un outil. Et c'est vrai que ces espaces-là sont essentiels pour évoluer justement dans des espaces bienveillants, en sécurité, etc. On peut le voir, en fait, de cet accompagnement et des intervenantes qu'on a choisis, que, en fait, c'est nécessaire. Et que de déconstruire, en fait, son parcours, ses craintes, c'est hyper important. Et du coup, je pense que, voilà, la non-mixité a prouvé que ça fonctionne. Ouais.
Pour ne pas se sentir jugé, limité, voilà.
Ouais. Et ouais. Puis simplement, si on veut faire changer les choses, si on constate qu'il n'y a pas assez de femmes dans le milieu et qu'on veut en mettre plus, eh ben, soit on peut effectivement... Il y a plusieurs solutions. Il y a les quotas dans les salles de concert qui doivent booker un certain nombre de DJ femmes. Mais par exemple, moi, je trouve que les ateliers en non-mixité, c'est bien parce que ça permet du coup plus de les former. Puis après, en plus, du coup, la proposition sera plus large pour les salles de concert, les clubs. Mais surtout que si un atelier, il est ouvert à tous, à tout le monde, eh ben, on allait encore avoir le même constat. On allait en voir encore 85-90% d'hommes qui allaient candidater pour, oui, 10% de femmes. Donc au final, on formerait exactement le même pourcentage d'hommes que...
On ouvrirait, ouais.
Et on n'arriverait pas à faire changer les choses.
Une sous-représentation de femmes par rapport, exactement, à toutes celles qui sont intéressées et passionnées par la culture électronique.
Bah, complètement. Et moi, je vois, là, on a ouvert Sister Act 2. Comme je disais tout à l'heure, là, en off, Pierre, j'ai des copines que je ne savais même pas qui étaient intéressées par le mix qui m'ont dit « Ah, je vais postuler ». Et je trouve ça assez dingue. C'est-à-dire que quand même, elles se enfin, elles se sentent touchées par ce programme-là, alors que des ateliers en fait, de mix, il y en a pas mal, en tout cas, comme proposition en Rhône-Alpes. Mais non, en fait, elles veulent faire Sister Act. Et du coup, ça montre bien que voilà, ces espaces-là sont nécessaires. Quoi.
Pour justement se sentir à l'aise et confortable dans le gain en compétences. Et
évoluer en collectif
et la
aussi.
La pratique aussi, voilà, tout ouais. à fait. Parce qu'on a vu là la dizaine de jeunes femmes que vous avez formées, finalement, c'est entre elles qu'elles ont appris aussi. Elles ont appris autant entre elles que par les formateurs et formatrices extérieures. Donc, l'importance d'échanger et de faire passer comme ça des petits conseils de l'une à l'autre. Parfois, des choses très simples, j'imagine, mais voilà, qui permettent après d'avancer.
Oui. Je pense que oui, c'est très bien résumé.
Ouais. Non mais c'est clair. En fait, on a vu qu'elles se réunissaient sans nous, qu'elles avaient des groupes de conversation sans nous. Et en fait, c'est très bien parce qu'en fait, nous, on est juste là pour leur donner des espaces et les faire rencontrer. Et du coup, là,
l'étincelle initiale, en fait. Et après,
ouais, c'est ça. Et c'est vrai que quand on a rencontré les 12 femmes en entretien, le choix a été assez difficile d'arriver à miser sur un groupe un peu. Enfin, je sais pas, qu'on considérait comme un peu homogène dans les pratiques, dans les évolutions, mais homogène, pas, enfin, je veux dire homogène, qui était différente artistiquement avec un parcours tout à fait différent, mais on se disait c'est intéressant de les faire rencontrer parce que justement on pense qu'elles peuvent toutes s'apporter les unes les autres et justement aux autres femmes qu'on n'a pas retenues, on leur a par contre proposé un atelier mix en non mixité comme une initiation. Pour qu'elles puissent continuer d'essayer, de s'entraîner, etc. Et que ça ne soit pas juste un nom.
Et pourquoi pas candidater à Sister Act 2, justement.
Oui, voilà, et c'est justement ce qu'on leur a dit, et qu'on ne les perdait pas de vue, et qu'on suivait leur évolution, ouais. etc. Et ce n'était pas l'idée de les lâcher, de leur dire « vous ne faites pas partie de Sister Act ». Non, au final, l'idée, c'est aussi d'accompagner les femmes qui débutent et qui n'ont pas été retenues, et pourquoi pas qu'elles deviennent Sister Act dans le futur. Ouais.
Voilà, progresser, avancer. Et merci pour cette belle initiative solidaire et enthousiasmante. Et on espère qu'à l'avenir, on verra plus de warm-up féminins aussi, y compris dans les salles de l'agglomération grenobloise, je ne citerai pas de nom, voilà.
Et bientôt en programmation.
et on va passer à un dernier morceau pour finir, sélectionné par Sarah Ciao-Ciao-Cesco. Donc c'est Canis Endesh ou Endesh, je ne sais pas. Dodo Nudua. Tu peux t'as un mot à nous en dire, Émilie ?
Alors, du coup, c'est effectivement une sélection de Ciao-Cesco qui dit « Voici une traque de Camille Sendesh, le roi de la tabla et de la derbouka. Né au Caire, dans une famille de musiciens de mariage trad, il s'entraîne dès l'âge de 5 ans au tambour, puis au tabla, et suit partout l'orchestre musical formé par son père et ses frères. Il est bientôt repéré par des comédiens et acteurs célèbres de l'époque, comme l'actrice-chanteuse Taya Karoka, j'espère que je le dis bien, qui commence à le produire en raison de son talent incroyable en tant que percussionniste. Il joue dans plusieurs orchestres prestigieux du Caire et finit par signer chez Sono Kero. Il produit lui-même ses 4 albums qui sortent dans les années 1980 en format cassette et vinyle, très rare à trouver aujourd'hui. Ce morceau de Kémis date de 1983 et propose de la disco-funk orientale entrecoupée de solos de percussion trad et de quelques passages chantés par des chœurs. Une petite rareté délicieuse et vintage. Voilà.
Parfait pour oublier la pluie et je vous remercie d'être venu au micro et je vous dis à bientôt et on espère qu'il y aura de prochaines émissions Résonance. On n'a pas parlé de l'objectif de ces émissions mais je crois que c'est à chaque fois de donner la parole à une des assos des collectifs Grenoblois et donc pour qu'elle se présente, qu'elle présente un peu son actu et ses activités du moment.
Oui, c'est ça. C'est que, étant donné qu'on est composé d'une vingtaine d'associations de musique électro grenobloise, l'idée, c'était d'avoir une permanence mensuelle d'émissions Radio Campus pour présenter une asso à chaque fois ou un projet, comme là, on le fait avec Sister Act. Et donc, voilà, à voir le prochain rendez-vous. On en parlera juste après.
Super. On s'écoute donc. Kenny Sendesh, Dodo, Nudua. Et nous sommes de retour sur Radio Campus Grenoble 90.8 avec Émilie et Chloé pour parler donc toujours de Move Your Gambette et du projet Sister Act. Et donc là, on a une belle chose à vous annoncer puisqu'une soirée est prévue avec les personnes se sentant femmes, donc qui font partie de ce collectif et qui donc vont se produire. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus, Émilie, sur cette soirée qui s'annonce ?
Ouais, bah comme on disait tout à l'heure, en fait, quand on a pensé le dispositif, on l'a pensé avec une date de fin. Et du coup, la date de fin, c'est à l'Empérage, donc c'est une soirée ouverte à tout le monde. C'est le 19 novembre, un vendredi soir, donc ça sera une soirée tardive, donc à partir de minuit jusqu'à 6h du matin. Et donc la programmation est faite effectivement des artistes de Sister Act 1 et du coup de Chloé et Bernadette qui jouera aussi ce soir-là.
Je viendrai poser un petit set. Voilà, on vous invite à noter la date et surtout à venir.
Oui, clairement.
Le 19 novembre, donc.
C'est ça. La communication n'est pas encore sortie, vous pouvez pas trouver l'événement, mais on va bientôt l'annoncer.
C'est un teaser ce que vous faites là, c'est un teasing.
C'est une surprise. Une exclu Radio Campus.
Spécial. Tout à fait. Et voilà, pour parler encore de date, donc le dispositif Sister Act 2 est lancé là depuis une semaine et tu peux postuler jusqu'au 31 octobre via un formulaire en ligne que tu retrouves sur les Facebook de Résonance et sur le groupe de Move Your Gambette.
Exactement.
Donc, on a toutes les infos. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter avant de conclure ?
Non, bah du coup pour juste redire, pour postuler à Sister Act 2, il faut juste avoir expliqué ses motivations, son parcours, donner une playlist avec les sons que tu écoutes en ce moment ou si tu as déjà des sets enregistrés, nous envoyer un petit lien, se considérer comme femme, donc femme plus, c'est pas juste les femmes, c'est femme plus quoi, et habiter la métro grenobloise.
Donc un recrutement très ouvert et on a vu. Toute sororité et toute complicité entre les membres du collectif. Donc venez, vous serez très bien accueillis et on vous formera au mieux pour que vous puissiez prendre conscience de votre talent.
C'est ça, on nous l'a beaucoup demandé au Sister Act 1, mais la technique n'est pas un critère du tout. C'est vraiment si la personne a des motivations, a envie d'apprendre, il ne faut pas savoir mixer, il faut juste répondre aux critères qui sont demandés dans le formulaire. Après, on étudie toutes les candidatures et on voit pour la sélection.
Donc, pas d'autocensure, allez-y, foncez. c'est peut-être pour vous à l'autre bout du poste.
Plus il y a de profils différents et plus nous, on est ravis.
C'est parfait. Bah, je vous remercie, les filles,
merci beaucoup
d'être venues au micro. Et on va s'écouter un dernier morceau sélectionné par Madeleine. Alors, un ancien membre de la scène de San Francisco, n'est-ce pas ? Patrick Collet, avec le morceau Sea Hunt.
Ouais, alors du coup, les petits mots de Madeleine. J'adore passer ce son, soit au début, soit à la fin de mon set. Je le trouve dansant et en même temps super mélancolique, mais dans le bon sens du terme. Le son date de 1981 et il n'a pas pris une ride. Patrick Collet est un précurseur dans son genre avec l'arrivée des synthétiseurs. Il a travaillé longtemps avec Sylvester et a aussi fait des BO de films porno gays qui sont très sympas à écouter. C'est malheureusement l'un des premiers artistes à être décédé de la maladie du sida, à l'époque où l'on ne connaissait pas cette maladie, en 1982, à l'âge de 32 ans, soit un an après avoir sorti ce morceau. Un artiste que j'apprécie tout particulièrement, l'ensemble de son œuvre est juste incroyable. Voilà, écoutez.
C'est vrai que c'est une figure, je recommande de fréquenter sa discographie. Et on s'écoute ça pour finir l'émission. Merci les filles et à très vite sur les ondes de campus.
Merci pour l'accueil. Merci Pierre.